Chapitre 40. Ils ne se disputèrent plus jusqu'à leur rupture, mais durant cette période qui vit Blaine rester de marbre, quand Ifemelu se repliait sur elle-même et mangeait des tablettes de chocolat entières, les sentiments qu'elle avait pour lui changèrent. Elle l'admirait toujours, avec son sens moral, son honnêteté, mais c'était à présent de l'admiration pour une personne distincte d'elle, lointaine. Et son corps avait changé. Au lit, elle ne se tournait plus vers lui, dévorée d'un désir insatiable, comme avant, mais, quand il tentait de l'attirer à lui, sa réaction instinctive était de s'écarter. Ils s'embrassaient souvent, bien qu'elle gardât toujours les lèvres serrées. Elle ne voulait pas sentir sa langue dans sa bouche. Pourtant, si leur union était sans passion, une passion nouvelle les unissait, une passion extérieure qu'ils n'avaient jamais connue, une intimité intuitive, inexprimée. Barack Obama. Ils s'accordaient sans y être incités, sans obligation ni compromis, sur Barack Obama. Au début, bien qu'elle souhaitât que l'Amérique élise un président noir, elle pensa que c'était impossible. Elle ne pouvait imaginer Barack Obama en président des États-Unis. Il paraissait trop mince, trop frêle, un homme qu'un coup de vent suffirait à emporter. Hillary Clinton était plus robuste. Ifemelu aimait la regarder à la télévision, avec ses tailleurs pantalons aux épaules carrées, un masque de détermination sur le visage, son charme mis entre parenthèses, car c'était l'unique moyen de convaincre le monde qu'elle était à la hauteur de la tâche. Ifemelu l'appréciait. Elle souhaitait l'avoir gagnée, voulait de toutes ses forces que la chance lui sourie, jusqu'au matin où elle ouvrit le livre de Barack Obama, « Les rêves de mon père », que Blaine avait lu et laissé sur une étagère de la bibliothèque, certaines pages cornées. Elle examina la photo de la couverture, la jeune Kenyan fixant l'appareil d'un air effaré, tenant son fils dans ses bras, et le jeune Américain à l'attitude enjouée qui serrait sa fille contre lui. Ifemelu se rappellerait plus tard le moment où elle avait décidé d'ouvrir le livre, par curiosité. Elle ne l'aurait peut-être pas lu si Blaine l'avait recommandé, mais il ne l'avait pas fait, l'avait simplement laissé sur le rayonnage près d'une pile de livres qu'il avait terminés et avait l'intention de relire. Elle lut « Les rêves de mon père » en un jour et demi, assise sur le canapé, en écoutant Nina Simone sur l'iPod de Blaine. Elle était fascinée et émue par l'homme qu'elle découvrait dans ses pages, un homme intelligent et avide de savoir, un homme bon, un homme complètement, totalement, irrésistiblement humain. Il lui rappelait l'expression qu'utilisait Obinze pour les gens qu'il aimait. Obi Ocha, un cœur clair. Elle avait confiance en Barack Obama. Quand Blaine rentra, elle s'assit à la table de la cuisine, le regardant hacher du basilic et dit « Si seulement l'homme qui a écrit ce livre pouvait devenir président des États-Unis » Le couteau de Blaine s'immobilisa. Il leva les yeux, une lueur dans le regard, comme s'il n'avait pas osé espérer qu'elle aurait la même conviction que lui, et elle sentit entre eux le premier élan d'une passion partagée. Ils s'étreignirent devant la télévision quand Barack Obama gagna le caucus de l'Iowa. La première bataille, et il l'avait emportée. Leur espoir rayonnait, se transformait en possibilité. Obama pouvait réellement gagner. Puis, comme s'il s'agissait d'une mise en scène, ils commencèrent à s'inquiéter. Ils craignaient que quelque chose le fasse dérailler, que son train lancé à toute vitesse se fracasse. Tous les matins, Ifemelu se réveillait et vérifiait qu'Obama était toujours en vie, qu'aucun scandale n'avait éclaté, qu'aucune histoire n'avait été exhumée de son passé. Elle allumait son ordinateur, retenant son souffle, le cœur battant, et quand, soulagée, elle était sûre qu'il était vivant, elle lisait les dernières nouvelles le concernant, à la hâte, avidement, cherchant à s'informer et se rassurer, les multiples fenêtres réduites au minimum en bas de l'écran. Quand elle tombait sur des forums de discussion, elle se désolait à la lecture de certains posts concernant Obama, se levait pour s'éloigner de son ordinateur, comme s'il était lui-même l'ennemi, et se tenait à la fenêtre pour cacher ses larmes. Comment un singe pourrait-il être président ? Que quelqu'un nous rende service et flanque une balle à ce type. Renvoyez-le dans sa jungle d'Afrique. Un noir n'habitera jamais la Maison Blanche, mec, C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la Maison Blanche. » Elle essaya d'imaginer les gens qui écrivaient ces posts, utilisant des pseudos tels que « Suburban Mom 231 » et « Norman Rockwell Rocks », assis à leur bureau, une tasse de café à côté d'eux. Elle tenta de se représenter leurs enfants revenant de l'école dans le bus scolaire, enveloppés d'un halo d'innocence. Les forums ôtaient soudain à son blog toute importance, le reléguaient au rang de comédie de mœurs, une satire mesurée d'un monde qui était tout sauf mesuré. Elle n'écrivait pas sur les bassesses qui semblaient proliférer tous les matins dans les blogs, qui poussaient comme des champignons, déversant toujours plus de vitriol, parce que c'eût été répandre les paroles de ceux qui abhorraient non pas l'homme, mais l'idée qu'il se faisait de Barack Obama comme président. Elle défendait au contraire sa position politique, dans une rubrique régulière intitulée « Voici pourquoi Barack Obama fera mieux », ajoutant souvent des liens avec le site internet d'Obama, et elle écrivait aussi sur Michelle Obama. Elle s'enthousiasmait pour son humour décapant, l'assurance de sa silhouette longiligne, et elle se lamentait lorsqu'elle la voyait piégée, étouffée, obligée à une tiédeur hygiénique dans les interviews. Pourtant, il y avait dans les sourcils exagérément arqués de Michelle Obama, dans sa ceinture portée plus haut sur la taille que la tradition ne le demandait, une trace de son ancienne personnalité. Ce fut ce qui attira Ifemelu, l'absence de justification, la promesse de l'honnêteté. « Si elle a épousé Obama, alors il ne peut pas être si mauvais », disait-elle souvent à Blaine en plaisantant. « C'est vrai, absolument vrai », répondait Blaine. Elle reçut un email de Princeton.edu et ses mains tremblèrent d'excitation avant même de le lire. Le premier mot qu'elle vit était « heureux ». Elle avait été sélectionnée pour la bourse de recherche. Le salaire était confortable, les exigences faciles à remplir. Elle vivrait à Princeton, utiliserait la bibliothèque et donnerait une conférence publique à la fin de l'année. Cela semblait trop beau pour être vrai, l'entrée dans un royaume sacré de l'Amérique. Elle prit le train avec Blaine pour chercher un appartement et fut frappée par la ville. Son aspect verdoyant, son calme et son charme. « J'ai été admis à Princeton pour la licence », lui dit Blaine. L'atmosphère était presque bucolique à l'époque. J'ai visité la ville qui m'a paru superbe, mais je ne me voyais pas y habiter. Ifemelu comprenait ce qu'il voulait dire, même maintenant que la ville était devenue, comme le lui avait dit Blaine un jour qu'il déambulait devant les alignements de boutiques luxueuses, agressivement consumériste. Elle était à la fois admirative et désorientée. Elle aimait son appartement proche de Nassau Street. La fenêtre de sa chambre donnait sur un petit bois, et elle parcourait la pièce vide en imaginant un nouveau départ dans l'existence, sans Blaine. Mais elle n'était pas sûre de savoir si c'était le nouveau départ qu'elle recherchait. « Je n'ai pas l'intention de m'installer ici avant l'élection », déclara-t-elle. Blaine hocha la tête avant qu'elle ait fini sa phrase. Bien sûr qu'elle ne déménagerait pas avant qu'ils aient vu Barack Obama victorieux. Il devint bénévole de la campagne d'Obama et elle s'imprégna de toutes les histoires qu'il racontait sur les portes auxquelles il frappait et les gens qui vivaient derrière elle. Un jour, il lui parla d'une vieille noire, le visage ridé comme un pruneau, qui se tenait cramponnée à sa porte comme si elle allait tomber et lui avait dit « Je ne croyais pas que cela pourrait arriver même du vivant de mon petit-fils. » Ifemelu mit cette histoire sur son blog, décrivant les fils d'argent dans les cheveux de la femme, ses doigts tremblant sous l'effet de la maladie de Parkinson, comme si elle-même s'était trouvée aux côtés de Blaine. Tous les amis de Blaine étaient des supporters d'Obama, excepté Michael, qui portait en permanence un pin de Hillary Clinton à la boutonnière. À leur réunion, Ifemelu ne se sentait plus exclue. Même cette vague gêne qu'elle ressentait à proximité de Paula, mi-agressivité, mi-insécurité, s'était dissipée. Ils se réunissaient dans des bars et des appartements, discutant des détails de la campagne, se moquant des stupidités relayées par la presse. Les Hispaniques vont-ils voter pour un noir? Sait-il jouer au bowling? Est-il patriote? C'est marrant d'entendre « les Noirs veulent Obama » et « les femmes veulent Hillary ». Mais qu'en est-il des femmes noires? Interrogea Paula. Quand ils disent « femmes », ils veulent automatiquement dire « blanches », renchérit Grace. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse dire qu'Obama est avantagé parce qu'il est noir, dit Paula. C'est compliqué, mais c'est la vérité. Tout comme Hillary Clinton est avantagée parce qu'elle est une femme blanche, dit Nathan, se penchant en avant et clignant des yeux encore plus vite que d'habitude. Si Clinton était une femme noire, son étoile ne brillerait pas autant. Si Obama était un homme blanc, son étoile pourrait briller autant ou pas, parce que certains blancs sont devenus présidents alors qu'ils en étaient incapables. Mais cela ne change rien au fait qu'Obama n'a pas beaucoup d'expérience. Et les gens se passionnent à l'idée qu'un candidat noir a une vraie chance d'être élu. Mais s'il gagne, il ne sera plus noir. De même qu'Oprah n'est plus noire, elle est Oprah, dit Grace. Si bien qu'elle peut se rendre sans problème dans des endroits où les noirs sont détestés, il ne sera plus noir, il sera seulement Obama. Dans la mesure où Obama en tire avantage, intervint Blaine, et soit dit en passant, cette notion d'avantage est très problématique. Bref, dans la mesure où il en profite, ce n'est pas parce qu'il est noir, c'est parce qu'il est une différente sorte de noir. Si Obama n'avait pas une mère blanche et n'avait pas été élevé par des grands-parents blancs, s'il n'y avait pas le Kenya, l'Indonésie et Hawaï, et tout ce passé qui fait de lui quelqu'un un peu comme tout le monde, s'il était juste un type ordinaire de Géorgie, ce serait différent. L'Amérique aura véritablement progressé quand un type ordinaire de Géorgie deviendra président, un noir ordinaire qui n'aura obtenu que la mention passable à la fac. Entièrement d'accord, dit Nathan. Et Ifemelu fut à nouveau frappé par le nombre de ceux qui étaient d'accord. Leurs amis, comme Blaine et elle, étaient des croyants, de vrais croyants. Le jour où Obama devint le candidat du Parti démocrate, Ifemelu et Blaine firent l'amour, pour la première fois depuis des semaines, et Obama était avec eux comme une prière muette, comme une troisième présence. Ils firent plusieurs heures de route pour aller l'écouter, se tenant par la main au milieu d'une foule compacte, brandissant des pancartes qui portaient « Change » en grosses lettres blanches. Un noir près d'eux avait juché son fils sur ses épaules et l'enfant riait, sa bouche pleine de dents de lait dont une manquait devant. Le père regardait en l'air et Ifemelu comprit qu'il s'émerveillait de voir réaliser ses espoirs, de croire en des choses qu'il n'aurait jamais cru possibles. Quand la foule explosa en applaudissements, l'homme ne put s'y joindre parce qu'il tenait les jambes de son fils et il resta à sourire longuement, son visage soudain rajeuni par une joie immense. Ifemelu le regardait ceux qui l'entouraient, tous irradiants, une étrange phosphorescence, tous transportés par la même émotion pure. Ils y croyaient vraiment. Souvent, une douce émotion l'envahissait à l'idée que tant de gens de par le monde éprouvaient la même chose que Blaine et elle envers Barack Obama. Certains jours, leur foi montait en flèche. À d'autres moments, ils désespéraient. « Ça se présente mal !» marmonnait Blaine, tandis qu'il passait d'une chaîne de télévision à l'autre, chacune montrant les séquences du sermon du pasteur de Barack Obama. Ces mots « Dieu maudisse l'Amérique » se gravèrent au fer rouge dans les rêves d'Ifemelu. Elle fut la première à lire sur Internet que Barack Obama allait prononcer un discours sur la race en réponse aux propos de son pasteur, et elle envoya un texto à Blaine qui donnait un cours. La réponse fut simple. « Oui !» Plus tard, en l'écoutant, assise sur le canapé de leur salon entre Blaine et Grace, Ifemelu se demanda ce qu'Obama pensait vraiment et ce qu'il ressentirait le soir dans son lit, quand tout serait désert et calme. Elle l'imaginait, lui l'enfant qui savait que sa grand-mère avait peur des hommes noirs, aujourd'hui devenu un homme, racontant cette histoire au monde pour se racheter. Elle s'attrista un peu à cette pensée. Tandis qu'elle l'écoutait parler d'une voix compatissante et modulée, les drapeaux américains flottant au vent derrière lui, Blaine s'agitait, soupirait, se renversait dans le canapé. Il finit par déclarer « C'est immoral de mettre ainsi en parallèle les souffrances des Noirs et les peurs des Blancs. C'est tout simplement immoral !» Ce discours n'a pas pour but de provoquer un débat sur la race, mais au contraire d'y mettre fin. Il ne peut gagner que s'il laisse la race de côté. Nous le savons tous, dit Grace. Mais l'important, c'est qu'il gagne. Ce type fait ce qu'il doit faire. Au moins, cette histoire de pasteur est désormais terminée. Ifemelu aussi adopta un point de vue pragmatique sur le discours. Mais Blaine en fit une affaire personnelle. Ses convictions avaient été ébranlées, et pendant quelques jours, son dynamisme habituel disparut. Il rentrait de son jogging matinal, moins euphorique et moins transpirant qu'à l'habitude. Le pas lourd. Ce fut Sean qui, sans le savoir, le tira de sa déprime. « Il faut que j'aille en ville quelques jours m'installer chez Sean, » dit-il à Ifemelu. « Ovidio vient de m'appeler. Elle ne tourne pas rond. »«
Elle ne tourne pas rond ?»
Une dépression nerveuse. Je déteste cette expression. Elle a des relents de conte de bonne femme. Mais c'est le terme qu'Ovidio a employé. Elle est couchée depuis des jours. Elle ne mange rien. Elle pleure sans arrêt.
Ifemelu sentit monter une bouffée d'irritation. Même ça, c'était encore pour Sean une façon de capter l'attention.
Elle a traversé des moments très difficiles, dit Blaine. Le livre ne marche pas.
Je sais, dit Ifemelu, incapable de ressentir une réelle compassion, ce qui l'inquiéta. Peut-être parce qu'elle tenait Sean, à un certain degré, pour responsable de sa dispute avec Blaine, lui en voulait de ne pas avoir utilisé son influence pour lui faire comprendre qu'il réagissait de manière exagérée.
Elle va se rétablir, dit-elle. C'est quelqu'un de fort.
Blaine parut interdit. Sean est l'un des êtres les plus fragiles qui soient au monde. Elle n'est pas forte, elle ne l'a jamais été. Mais elle est spéciale.
La dernière fois qu'elle s'était vue, environ un mois plus tôt, Sean avait dit à Ifemelu :
Je savais bien que Blaine et toi alliez vous remettre ensemble.
Avec le ton de quelqu'un parlant d'un frère bien-aimé qui replonge dans les drogues psychédéliques.
N'est-ce pas qu'Obama est excitant ? Avait demandé Ifemelu en espérant aborder au moins un sujet dont Sean et elle pourraient parler sans avoir à marcher sur des œufs.
Oh, je ne m'intéresse pas à son élection,
dit Sean avec dédain.
Tu as lu son livre ? Demanda Ifemelu.
Non.
Sean haussa les épaules.
Ce serait bien que quelqu'un lise mon livre.
Ifemelu ravala ses paroles. Il ne s'agit pas de toi. Pour une fois, il ne s'agit pas de toi.
Tu devrais lire Les rêves de mon père. Les autres livres ne sont que des documents de campagne, dit Ifemelu.
C'est lui, Obama, le meilleur.
Mais Sean n'était pas intéressée. Elle parlait d'une table ronde à laquelle elle avait participé la semaine précédente, dans un festival de littérature.
Ils m'ont demandé quels étaient mes auteurs favoris. Bien sûr, je savais qu'ils s'attendaient à m'entendre citer des écrivains noirs, et je n'allais pas leur dire que Robert Hayden est l'amour de ma vie, ce qu'il est.
Aussi n'ai-je mentionné aucun nom d'auteur noir, de couleur ou ayant une étiquette politique, ni même aucun écrivain vivant. Avec aplomb, j'ai cité Tourgueniev, Trollope et Goethe. Mais pour ne pas me trouver redevable envers les mâles blancs décédés, ce qui aurait manqué d'originalité, j'ai ajouté Selma Lagerlöf. Et ils n'ont plus su quoi me demander, parce que j'avais foutu leur scénario en l'air.
C'est marrant, dit Blaine.
La veille de l'élection, Ifemelu ne pouvait pas dormir.
Tu ne dors pas ?
Lui demanda Blaine.
Non.
Ils restèrent enlacés dans le noir sans rien dire, respirant régulièrement, jusqu'à ce qu'ils sombrent dans un état de somnolence. Le matin, ils se rendirent au lycée. Blaine voulait être un des premiers à voter. Ifemelu regarda ceux qui étaient déjà là, en file, attendant de voir les portes s'ouvrir, et elle les adjura intérieurement de tous voter pour Obama. Elle-même s'affligeait de ne pouvoir voter. Sa demande de naturalisation avait été acceptée, mais la prestation de serment n'aurait lieu que plusieurs semaines plus tard. Elle s'agita pendant toute la matinée à consulter tous les sites d'information, et quand Blaine revint de son cours, il lui demanda d'éteindre Internet et la télévision afin de pouvoir souffler un peu et manger tranquillement le risotto qu'il avait préparé. Ils avaient à peine terminé qu'Ifemelu ralluma son ordinateur, juste pour s'assurer qu'Obama était toujours en vie. Blaine prépara des cocktails sans alcool pour leurs amis. Araminta fut la première à arriver, directement de la gare, armée de deux téléphones, lisant les dernières nouvelles sur chacun d'eux. Puis ce fut le tour de Grace, enveloppée dans ses soieries, une écharpe dorée autour du cou.
« Oh mon Dieu !» dit-elle. « Je suffoque tellement je suis nerveuse. »
Michael se présenta avec une bouteille de Prosecco. « Je voudrais que ma mère soit encore en vie pour connaître ce jour, quel que soit le résultat. »
Paula, Pi et Nathan arrivèrent ensemble, et bientôt ils furent tous assis sur le canapé et les chaises de la salle à manger, les yeux rivés sur la télévision, buvant du thé et les cocktails de Blaine, et répétant ce qu'ils avaient déjà dit. S'ils gagnent l'Indiana et la Pennsylvanie, c'est plié. Ça se présente bien en Floride. Les nouvelles de l'Iowa sont mitigées. Il y a une énorme participation noire en Virginie, c'est bon signe, dit Femelou. La Virginie n'est pas gagnée, dit Nathan. Il n'a pas besoin de la Virginie, dit Grace, puis elle poussa un cri.
Oh mon Dieu! La Pennsylvanie!
Un tableau était apparu à l'écran, avec une photo de Barack Obama. Il venait de gagner les États de Pennsylvanie et de l'Ohio.
Je ne vois pas comment McCain pourrait l'emporter désormais, dit Nathan.
Un peu plus tard, Paula était assise près d'Ifemelu quand un graphique s'afficha. Barack Obama avait gagné la Virginie.
Oh Seigneur!
S'exclama Paula, portant une main tremblante à sa bouche. Blaine était assis droit et immobile, les yeux rivés sur l'écran. Puis on entendit la voix profonde de Keith Olbermann, qui Femelou n'avait cessé de regarder ces derniers temps sur MSNBC, une voix chargée d'une furieuse et intense conviction de gauche. Aujourd'hui, elle disait
« Obama est en passe de devenir le prochain président des États-Unis d'Amérique !»
Blaine pleurait, tenant Araminta en pleurs dans ses bras, puis pressait Ifemelu contre lui, la serrant très fort, et puis serrait Michael contre elle. Grace étreignait Nathan, Paula étreignait Araminta, Ifemelu étreignait Grace, et le salon se transforma en un hôtel d'incrédule exultation. Un texto de Dickey fit vibrer son téléphone. « Je n'arrive pas à y croire. Mon président est noir comme moi. » Elle lut le texto à plusieurs reprises, les yeux emplis de larmes. À la télévision, Barack et Michelle Obama, avec leurs deux petites filles, montaient sur un podium. Ils étaient portés par le vent, baignés d'une lumière incandescente, victorieux et souriants. Jeunes et vieux, riches et pauvres, démocrates et républicains, noirs, blancs, hispaniques, asiatiques, amérindiens, gays, hétérosexuels, handicapés ou en bonne santé. Les Américains ont envoyé un message au monde, montrant que nous n'avons jamais été un simple ensemble d'États rouges et d'États bleus. Nous avons été et serons toujours les États-Unis d'Amérique. La voix de Barack Obama enflait et diminuait. Son visage était solennel et autour de lui était massée une immense foule resplendissante, emplie d'espoir. Ifemelu regardait, hypnotisée. Et à ce moment-là, rien n'était plus beau pour elle que l'Amérique.
Comprendre l'Amérique pour le noir non-américain. Quelques réflexions à propos de l'ami blanc très spécial. Un cadeau sans pareil pour le nègre boutonné jusqu'au cou. L'ami blanc qui pige. Malheureusement, il n'est pas aussi commun qu'on le souhaiterait, mais certains ont la chance de posséder cet ami blanc auquel il est inutile d'expliquer toutes ces conneries. Surtout, n'hésitez pas à le mettre au travail. Non seulement de tels amis pigent, mais ce sont de grands détecteurs de conneries, et par conséquent, ils savent parfaitement qu'ils peuvent dire sans problème des choses qui vous sont interdites. On trouve par exemple, presque partout en Amérique, une petite idée sournoise largement répandue. À savoir que les Blancs ont gagné leur place professionnellement et à l'école, tandis que les Noirs sont arrivés là parce qu'ils étaient Noirs. Mais en réalité, depuis que l'Amérique existe, les Blancs ont du travail parce qu'ils sont Blancs. À qualification égale, beaucoup de Blancs n'auraient pas le job qu'ils occupent s'ils avaient la peau noire. Mais ne dites jamais ça en public. Laissez votre ami Blanc s'en charger. Si vous faites l'erreur de le dire vous-même, vous serez accusé d'un syndrome qu'on appelle « jouer la carte de la race ». Personne ne sait vraiment ce que cela veut dire. Quand mon père allait à l'école dans mon pays de Noirs non-américains, de nombreux Noirs américains, ici, n'avaient pas le droit de vote et ne pouvaient pas fréquenter de bonnes écoles. La raison ? La couleur de leur peau. La couleur de leur peau à elle seule était le problème. Aujourd'hui, beaucoup d'Américains disent que la couleur de la peau ne peut pas faire partie de la solution. Sinon,
On y fait référence comme à un syndrome appelé « racisme inversé ». Demandez à votre ami blanc de souligner que le sort du noir américain est un peu un truc du genre « on t'a injustement emprisonné pendant de longues années, tu t'es soudain libéré et on ne te paye pas le ticket d'autobus ». Et au passage, toi et le mec qui t'a mis en prison êtes aujourd'hui automatiquement égaux. Si la vieille rengaine, l'esclavage est un truc du passé, refait surface, demandez à votre ami de mentionner qu'une quantité de blancs continue à hériter de l'argent que leurs familles ont gagné il y a un siècle. Si cet héritage perdure, pourquoi pas l'héritage de l'esclavage ? Et faites dire à votre ami qu'il est curieux que les enquêtes d'opinion demandent toujours aux noirs et aux blancs si le racisme existe encore. La majorité des blancs déclarent qu'il n'existe plus, et la majorité des noirs qu'il existe encore. Curieux, n'est-ce pas ? D'autres suggestions quant aux questions que votre ami blanc pourrait poser ? Rédigez votre poste. Et je bois à la santé de tous les amis blancs qui pigent.